Chapitre 7. Schweik s'en va en guerre. À l'époque où les forêts qui bordent la rivière de Rab en Galicie voyaient les armées autrichiennes en fuite la traverser précipitamment, à l'époque où en Serbie les divisions autrichiennes recevaient la fessée qu'elles méritaient depuis longtemps, le ministère impérial et royal de la guerre se souvint dans sa détresse de l'existence de M. Schweik. Le ministère comptait sur le brave soldat pour se tirer d'affaire. L'invitation à se présenter dans l'île des tireurs, devant la commission médicale qui l'incorporerait éventuellement dans la réserve, trouva Schweik au lit, car il souffrait de nouveau de ses rhumatismes. Madame Müller était à la cuisine à faire du café. « Madame Müller !» appela Schweik d'une voix assourdie. « Madame Müller !» Venez ici pour un instant, s'il vous plaît. » La voix de Schweik prit quelque chose de mystérieux et de solennel. Il déclara, en se dressant sur son lit, « Je pars au régiment. »« Vierge Marie !» s'écria Madame Müller. « Et qu'est-ce que vous y ferez à ce régiment, monsieur le patron ?»« Je m'en vais faire la guerre, » répondit Schweik d'une voix sépulcrale. L'Autriche est dans un pétrin abominable. À l'est, les Russes sont à deux doigts de Cracovie et foulent le sol hongrois. Mais nous sommes battus comme du linge, ma pauvre dame. Müller, et voilà pourquoi l'empereur m'appelle sous le drapeau. J'ai lu hier dans les journaux que de sombres nuées s'amassaient à l'horizon de notre chère Autriche-Hongrie. Mais puisque vous ne pouvez pas bouger, monsieur le patron... « Mais c'est pas un prétexte pour manquer à son devoir, Madame Müller. Je me ferai pousser en petite voiture. Vous connaissez le confiseur du coin de notre rue. Eh bien, il en a un petit truc comme ça. Où, il y a quelques années, il s'en servait pour faire prendre le frais à son grand-père. Mais vous irez le voir de ma part. Vous lui demanderez de me prêter sa voiture et vous me roulerez devant ces messieurs. » Madame Müller éclata en sanglots. Mais si j'allais trouver un médecin, monsieur le patron? Ne bougez pas, Madame Müller. Sauf mes jambes, j'en présente un morceau de Kanonenfutter, assez potable. Du reste, à une époque où l'Autriche dégringole, tous les manchots, les jambes de bois, les paralytiques, les cul-de-jatte et tous les infirmes doivent être à leur place. « Continuez tranquillement à faire votre café. » Et tandis que Madame Müller, toute tremblante, versait le café dans sa tasse, en y mêlant ses larmes amères, le brave soldat Schweik se mit à chanter dans son lit. « Général Windisgrace et les autres commandants ont commencé la bataille au soleil levant. Hop, 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 ont commencé à se battre et ont poussé des cris. » « Jésus-Christ, aidez-nous et la Vierge Marie, hop, hop, hop !» La logeuse, épouvantée par ce chant de guerre, oublia tout à fait son café, et faisant effort pour se tenir sur ses jambes qui lui rentraient dans le corps, écoutait bouche bée le chant que Schweik continuait à hurler. « Avec la Vierge Marie, avec nos quatre ponts, où sont les avant-postes au Piémont? Hop, hop, hop! La bataille a eu lieu là-bas à Solferino. Il y coulait du sang comme s'il tombait de l'eau. Hop, hop, hop! Comme s'il pleuvait du sang et de la chair en bas. Car c'est le 18e qui se battait là-bas. Hop, hop, hop! Oh les gars du 18e, il y a du bon pour vous! Les voitures pleines de pèse vous suivent partout. Hop, hop, hop! « Oh, monsieur le patron, je vous en supplie, au nom de tout ce que vous avez de plus cher au monde, finissez !» sanglotait la logeuse dans sa cuisine. Mais déjà, monsieur Schweik achevait son chant guerrier. « Les voitures pleines de pèse et les filles qui vous aiment, aucun régiment ne vaut le 18e, hop, hop, hop !» D'un geste égaré, Madame Müller poussa la porte et courut à la recherche d'un médecin. Elle revint une heure après. Pendant son absence, Schweik s'était endormi. Un monsieur corpulent le réveilla. Il tint un instant la main de Schweik dans la sienne et dit Oh, ne vous inquiétez pas, je suis le docteur Pavig de Vinohrady. Faites voir votre main, là. Mettez-vous ce thermomètre sous le bras. Bien, tirez la langue. Encore? Non, 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 ne rentrez pas. Monsieur votre père et madame votre mère sont-ils morts et de quoi? Et c'est ainsi qu'à une époque où Vienne désirait voir toutes les nations d'Autriche-Hongrie donner les exemples les plus brillants de dévouement et de loyalisme, le docteur Pavec prescrivait à Schweik du bromure pour modérer son enthousiasme patriotique et recommandait à ce vaillant soldat de ne pas penser au service militaire. Restez couché, ne vous agitez pas, je repasserai demain. Le lendemain, le docteur s'arrêta dans la cuisine et demanda à Madame Müller comment se portait Monsieur Schweik. Oh, c'est de pire en pire, monsieur le docteur, répondit la logeuse avec une franche tristesse. La nuit, lorsque les douleurs l'ont pris, il a chanté, sauf votre respect, l'hymne autrichien. Le docteur Pavec se vit dans la nécessité d'augmenter la dose de bromure. Le troisième jour, Madame Müller déclara que l'état de santé de Monsieur Schweik allait toujours en empirant. Figurez-vous, monsieur le docteur, que l'après-midi, il m'a envoyé chercher la carte du champ de bataille, et toute la nuit, il a déliré, il a dit des choses fantastiques, comme par exemple que cette guerre, l'Autriche allait la gagner. Et est-ce qu'il prend les potions que je lui ai ordonnées? Il n'a même pas pensé à les acheter, monsieur le docteur. Le docteur Pavec partit après avoir accablé Schweik de tout un orage de reproches et en assurant qu'il ne viendrait plus soigner un homme qui refusait avec un tel entêtement les cachats de bromure. Il ne restait que 2 jours avant celui où Schweik devait paraître devant la commission de recrutement. Schweik en profita pour prendre ses dernières dispositions. Tout d'abord, il pria Madame Müller d'aller lui acheter une casquette militaire et de voir le confiseur pour s'entendre avec lui au sujet du véhicule. Ensuite, il jugea nécessaire de se procurer aussi une paire de béquilles. Par bonheur, le confiseur en avait justement une paire, relique de son aïeul. Il ne manquait plus que le bouquet dont se parlent les recrues. Mais Madame Müller pensait à tout. Pendant les 2 derniers jours, la pauvre femme avait maigri à vue d'œil et ne cessait de pleurer. Et c'est ainsi qu'arriva le jour historique où les rues de Prague virent un émouvant spectacle. Une vieille femme poussait devant elle un ancien triporteur occupé par un homme qui, coiffé d'une casquette militaire, cornait le petit François, brillant de 1 000 feux, agitait frénétiquement une paire de béquilles. Ces béquilles, toujours en bataille, l'homme criait à tue-tête par les rues de Prague: « À Belgrade! À Belgrade! » Sa voiturette était suivie par une foule de badauds dont le nombre augmentait sans cesse. En route, Schweik constatait que les agents postés à divers carrefours lui faisaient le salut militaire. Sur la place Saint-Venceslas, son cortège comptait déjà plusieurs centaines de têtes, et au coin de la rue Krakowska, Oburchak fut fortement malmené parce qu'il avait crié « Heil Niederbit der Serben! » Au coin de la rue Vodikova, un détachement de policiers à cheval chargea contre la foule qui accompagnait Schweik. L'inspecteur de district, à qui Schweik présenta ses documents, où l'on pouvait lire noir sur blanc qu'il était appelé pour le jour même à comparaître devant la commission, fut un peu déçu et, pour empêcher le rassemblement sur la voie publique, ordonna à 2 agents d'escorter Schweik jusqu'à l'île des Tireurs. L'incident fut relaté et commenté le lendemain par la presse. C'est ainsi que la Gazette officielle de Prague publia l'entrefilet suivant. l'enthousiasme patriotique d'un infirme. Hier, dans la matinée, les passants qui se promenaient sur les boulevards ont été témoins d'une scène touchante et qui manifeste éloquemment que, dans les temps graves et solennels que nous traversons, il se trouve aussi des fils de notre nation tchèque pour faire preuve d'un loyalisme et d'un attachement exemplaire envers le trône du vieux monarque. On croirait revenue l'antique époque des Grecs et des Romains, l'époque héroïque qui eut des hommes comme Mucius Scaevola, qui, on le sait, n'hésita pas à prendre part à une bataille sanglante au mépris de son bras qui venait de brûler. Cette manifestation d'un infirme béquillard que sa vieille maman voiturait dans un pousse-pousse fut une belle exaltation publique du culte dévoué et de la ferveur profonde que les sujets autrichiens professent envers l'Empire. Ce fils de nation tchèque s'est fait inscrire comme volontaire pour être sûr de pouvoir sacrifier sa vie et ses biens à Sa Majesté l'Empereur. Et si son appel chaleureux à Belgrade a eu un écho si retentissant dans les rues de Prague, c'est qu'une fois de plus les Pragois ont montré, devançant par là les autres nations habitant l'Autriche, un amour éclatant pour notre patrie et pour la maison impériale et royale. L'article du Prager Tagblatt était conçu à peu près dans les mêmes termes, mais disait que le martial infirme avait passé accompagné d'une foule d'Allemands qui lui faisaient un rempart de leur corps contre le lynchage que lui réservaient certainement les agents tchèques de l'entente cordiale. Le second journal allemand, la Bohemia, avait relaté le fait dans un article priant les citoyens allemands de récompenser l'ardeur du patriotique infirme et d'envoyer à l'administration du journal les cadeaux qu'il lui destinait. En somme, à en croire ces trois journaux, le pays tchèque n'avait jamais produit un plus noble citoyen que M. Schweik. Malheureusement, ces messieurs de la commission de recrutement professaient à son égard un tout autre opinion. Particulièrement le médecin-inspecteur Bao Tse. C'était un homme sans pitié, qui voyait partout des tentatives de fraude pour échapper au service militaire, au front, aux balles et aux shrapnels. On connaissait sa phrase célèbre « Das ganze tschechische Volk ist eine Stimulantenbande ». Depuis les 10 semaines de son activité, il avait repéré, sur un chiffre de 11 000 soldats, 10 999 simulateurs. Et le dernier soldat n'y aurait pas coupé non plus, si au moment où Bao Tse lui criait « Kerush !», il n'avait pas succombé à un coup de sang. « Enlevez-moi ce simulateur !» dit Bao Tse, après avoir constaté que le pauvre bourreau était mort. C'est donc devant lui que se présenta Schweik en ce jour mémorable, et, nu qu'il était, il couvrait chastement sa nudité en croisant les béquilles qui le soutenaient. « Das ist wirklich ein besonderer feinigen Mann !» dit Bao Tse. « Je crois qu'au paradis, il n'y en avait pas comme ça. »« Réformé pour idiotie, » lut le sergent dans le dossier. « Et qu'est-ce que vous avez encore ?» questionna Bao Tse. Ben, « je vous déclare avec obéissance que je suis rhumatisant, mais que je veux tout faire pour notre empereur, quand je devrais y laisser ma peau, » répondit Schweik avec modestie. « Ben aussi les genoux enflés. » Bao Tse jeta un regard terrible sur le brave soldat Schweik et hurla « Sie sind ein Stimulant !» Puis, s'adressant au sergent, il ajouta d'un ton glacial « Den quel se glisse einsperren !» Baïonnette au canon, deux soldats s'emparèrent de Schweik pour le conduire à la prison centrale de la place de Prague. Schweik, s'appuyant sur ses béquilles, s'aperçut avec horreur que son rhumatisme disparaissait à vue d'œil. Voyant Schweig escorté par des soldats avec baïonnette, la bonne Madame Müller, qui l'attendait avec sa voiture au haut de l'escalier qui descendait dans l'île des tireurs, éclata en sanglots et lâcha le véhicule pour ne jamais plus s'en occuper. Pendant ce temps-là, Schweig avançait d'un pas modeste, encadré par deux défenseurs de l'État en armes. Les baïonnettes reflétaient les rayons du soleil. Passant par le Malastrana, Schweig arrivait devant le monument du maréchal Radetzky, se tourna vers la foule qui marchait toujours derrière lui et cria « À Belgrade! À Belgrade !» Du haut de son monument, le maréchal Radetzky suivait d'un regard rêveur le brave soldat Schweig, s'éloignant, son bouquet de recrues piqué sur sa veste, en boitant un peu, tandis que monsieur à l'air sérieux expliquait aux badauds d'alentour qu'on emmenait un déserteur. Chapitre 8. Comment Schweig fut réduit au triste état de simulateur. À cette grande époque, les médecins militaires de l'Autriche tenaient beaucoup à chasser du corps des simulateurs le diable saboteur des devoirs les plus sacrés à leur faire réintégrer le giron de l'armée. Dans ce dessein fut institué tout un système de torture graduelle qu'on appliquait aux simulateurs et aux gens suspects de l'être, tels que phtisiques, rhumatisants, hernieux, néphrétiques, diabétiques, pneumoniques, malades atteints de fièvre typhoïde, etc. L'échelon avait été combiné d'une manière savante et comportait. Premièrement, la diète sévère, une tasse de thé le matin, le soir, et sans tenir compte de la nature de la maladie, de l'aspirine à tous les repas pour provoquer une transpiration intense. Deuxièmement, la cure de quinine en cachet, surmenée aussi l'échage de la quinine. On en distribuait de fortes doses pour rappeler aux lascars que le service militaire n'était pas de la rigolade. Troisièmement, le lavage de l'estomac avec un litre d'eau chaude deux fois par jour. Quatrièmement, l'emploi de clistères à l'eau savonnée et à la glycérine. Cinquièmement, enveloppements humides avec des draps trempés dans de l'eau glacée. Il y eut des gens d'une endurance et d'une vaillance extraordinaire qui, ayant passé par les cinq traitements successifs, se firent ensuite porter dans un cercueil très simple au cimetière militaire. Il y eut aussi, par contre, des gens prompts à se décourager, qui déclaraient avant même d'avoir passé par le clistère qu'ils étaient guéris et qui ne demandaient pas mieux que de partir pour les tranchées avec le premier bataillon en partance. À la prison de la place de Prague, on mit Schweig dans un pavillon où étaient rassemblés de ces simulateurs fatigué dont nous venons de donner le signalement. « Je n'en peux plus !» déclara le voisin de lit de Schweig à sa gauche. Il revenait justement de subir pour la deuxième fois déjà le lavage de l'estomac. Cet homme simulait la myopie. « Demain, je pars pour le régiment !» décida l'autre voisin de lit à droite qui venait du clistère. Le malheureux prétendait être sourd comme une souche. Sur le lit, près de la porte, se mourait un phtisique enveloppé dans un drap imbibé d'eau glaciale. « Ben c'est le troisième cette semaine, » observa le voisin de droite. « Et toi, qu'est-ce que t'as ?»« Ben j'ai des rhumatismes, » répondit Schweig, suscitant une hilarité générale. Le moribond tuberculeux en riait lui-même aux éclats. Tu tombes bien avec tes rhumatismes, prononça à l'adresse de Schweig un homme gros et gras. C'est comme si tu disais que t'as des corps aux pieds. Moi, je suis anémique, j'ai la moitié de l'estomac foutu, cinq côtes en moins, et pourtant on veut rien me croire. Par exemple, nous avons ici un sourd-muet, et bien pendant 15 jours, on l'a enveloppé toutes les demi-heures dans des bras trempés dans l'eau froide, eh bien chaque jour, on lui passait un clistère et on lui nettoyait l'estomac. Tout le monde croyait qu'il avait gagné la partie et qu'on allait le lâcher. Mais un beau jour, le docteur lui a prescrit quelque chose pour vomir. Ah, ça lui a été fatal. Il a perdu courage et à la fin des fins, il a déclaré qu'il n'avait plus de force de faire le sourd-muet et qu'il avait retrouvé l'ouïe et la parole. Nous autres, on disait tout pour l'encourager, pour l'empêcher de faire une bêtise, mais il n'a rien voulu entendre et le matin, à la visite, il a déclaré qu'il entendait maintenant très bien et parlait mieux encore. Il a été fait, bien sûr.
Mais celui-là, au moins, a tenu bon pendant assez longtemps, dit un autre simulateur, qui prétendait avoir une jambe plus courte que l'autre d'un décimètre. C'est pas comme cet imbécile qui faisait semblant d'avoir eu une attaque d'apoplexie. 3 quinines, un lavement, une journée sans rien manger ont suffi. Il avouait avant de passer au lavage de l'estomac et il se rappelait plus son apoplexie. Son copain, un type qui racontait avoir été mordu par un chien enragé, a résisté un peu plus longtemps, lui. Il mordait et hurlait que c'était plaisir de l'entendre. Mais il n'arrivait pas à avoir l'écume à la gueule. On l'aidait de notre mieux. Quelquefois, nous l'avons chatouillé pendant 1 heure avant la visite, jusqu'à lui donner des convulsions et à le faire devenir tout bleu. Peine perdue, pas d'écume à la gueule. C'était épouvantable. Et le jour où il s'est vendu, à la visite du matin, oh, il nous a fait pitié à nous tous. Il était raidi au pied de son lit, droit comme un cierge, et quand il a saoulé le médecin, il a dit « Monsieur l'Oberhans, je vous déclare avec obéissance que le chien qui m'a mordu était probablement pas âgé du tout. » Alors l'Oberhans l'a regardé avec de si drôles yeux que le mordu a commencé à trembler et a dit « Je vous déclare avec obéissance, monsieur l'Oberhans, que c'est pas un chien qui m'a mordu. » Me suis vendu tout seul, à la main. Et le paquet lâché, bon, il est passé au conseil de guerre pour automutilation, c'est-à-dire qu'il voulait se couper la main à force d'y mordre, pour pas aller au front. Toutes ces maladies où il faut de l'écume à la gueule, déclara le simulateur gras, sont difficiles à imaginer et à imiter. Prenez l'épilepsie. Il y avait un type ici qui faisait l'épileptique. Il nous affirmait toujours que simuler une crise était pour lui un jeu d'enfant et qu'il pouvait en avoir 10 par jour. Il se tordait en convulsions, serrait les poings, faisait des yeux de crapaud, frappait autour de lui comme un fou, tirait la langue. Bref, c'était une petite épilepsie soignée, du travail propre et bien fait. Mais voilà que tout d'un coup, il attrape des furoncles, 2 sur le cou, 2 sur le dos. Et la comédie a pris fin. Il pouvait plus remuer la tête, ni s'asseoir, ni se coucher. La fièvre l'a pris, et dans son délire à la visite, il a raconté tout ce qu'il savait. Et qu'est-ce qui nous a passé avec ces sacrés furoncles? On l'a laissé encore 3 jours, et on lui faisait le régime de première classe, du café avec un petit pain le matin, une soupe et une purée le soir. Quelle chérie, mes enfants! Nous autres, avec notre estomac bien nettoyé et affamé, comme des loups qu'on était, on se plantait là, le regarder bouffer, faire claquer sa langue, se gonfler, rôter. Et il a fait encore 3 victimes par-dessus le marché, 3 types qui simulaient une maladie de cœur. Quand ils l'ont vu avouer, ils se sont fait balancer avec lui. Ce qu'il y a encore de mieux, dit un autre, c'est de simuler la folie. Dans la salle d'à côté, il y a 2 instituteurs, mes collègues, qui prétendent être fous. L'un des deux gueule jour et nuit. Le bûcher de Giordano Bruno est encore tout fumant. Nous voulons la révision du procès de Galilée. Et l'autre, il fait qu'aboyer. Il commence toujours par répéter 3 fois de suite « Waouh, waouh, waouh ». Il fait ensuite 5 fois « Waouh, 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 et puis recommence le premier couplet. Ils font ce truc-là depuis 3 semaines. Moi aussi, je voulais faire le fou religieux, et prêcher l'infaillibilité du pape, mais j'ai réussi à me procurer un cancer à l'estomac. C'est un coiffeur de Malastrana qui me l'a refilé pour 15 couronnes. Ah, je connais un ramoneur aux environs de Brévenave, dit un autre malade. Et celui-là, pour 10 couronnes, vous fiche une fièvre à vous jeter par la fenêtre. « Ce n'est rien, déclara quelqu'un. Il y a à Vrtsvodvice une sage-femme qui prend 20 couronnes seulement. Vous démêlez la patte que vous en avez pour toute votre vie. À moi, on me l'a démise pour 5 couronnes, dit une voix venant d'un lit dans le fond de la salle. Pour 5 couronnes et 3 chopes de bière. Et moi, ma maladie me coûte déjà plus de 2 cents, déclara son voisin, mince comme un jonc. Citez-moi n'importe quel poison, et vous verrez si j'en ai pas pris. Les poisons, ça me connaît. J'ai bu du sublimé, j'ai respiré des vapeurs de mercure, j'ai croqué de l'arsenic, j'ai bu du laudanum, j'ai mangé des tartines de morphine, j'ai avalé de la strychnine, j'ai gobé du vitriol et toutes sortes d'acides. Je me suis abîmé le foie, les poumons, les reins, la poche à fiel, le cerveau, le cœur et les boyaux. Pour ma part, ce qu'il y a de mieux, soupira un malheureux qui avait son lit près de la porte, c'est de l'injonction au pétrole que vous vous piquez sous la peau de la main. Mon cousin a eu de la chance, il s'est fait couper ainsi le bras jusqu'au coude et personne ne l'embête plus aujourd'hui avec le service militaire. Vous voyez bien vous-même, dit Schweik, qu'il faut supporter beaucoup pour Sa Majesté l'Empereur. Le lavage de l'estomac aussi bien que le clistère. Quand je faisais mon service militaire, les conditions étaient pires. Un malade, pour le guérir, on le ficelait, on le foutait au trou. Et là-dedans, il n'y avait pas de lit et pas de crachoir comme ici. Une planche nue contre le mur, voilà ce qu'on nous offrait pour refuser nos maux. Une fois, un copain avait pour de bon la fièvre typhoïde et son voisin la petite vérole. On les a garrottés tous les deux. Et le régiment SARS nous a tous flanqué des coups de pied à l'estomac en les traitant de simulateurs. Une fois qu'ils ont été morts, l'affaire est venue devant le Parlement. Oh, les journaux en ont parlé. Bien entendu, on nous a défendu de lire les journaux où il y avait des articles là-dessus. Et on a fouillé nos cambus en dessous pour voir si nous les cachions pas. Moi, je suis pas vénard et c'est moi qui ai trinqué. On s'était couru. Le seul type qui avait un de ces journaux-là, fallait que ce soit moi. On m'a conduit au régiment sur la pente, et notre colonel, un veau, Dieu l'accueille dans son ciel, m'a demandé de lui dire qui était le chameau qui avait mis les journaux au courant. Il a dit qu'il allait me casser la gueule et qu'il me foutrait à la boîte. Ensuite, ça a été le tour du régiment Sansk, brandissait tout le temps son poing devant mon nez, et gueulait « Ziver Flüchung, si j'aille bis gewesen, si un glutzkitzklar, misle, Freiburg socialiste. » Alors moi, je le regarde dans les yeux, sans broncher, la main droite à la casquette, la main gauche à la coudure du pantalon. Après avoir fait les fous pendant une demi-heure, voilà que le colonel saute sur moi et hurle « Est-ce que t'es idiot ou est-ce que tu t'es pas ?» « Vous déclare avec obéissance, mon colonel, que je suis un idiot. »« 21 jours de cachot pour idiotie, qui dit, sans bouffer 2 fois par semaine, 1 mois de consigne, 48 heures à être pendu ficelé, qu'on le foute dedans tout de suite, sans rien à boulotter, garrotez-le-moi pour lui mettre dans la tête que l'armée a pas besoin de crétins pareils. On t'apprendra à lire les journaux, à t'en voir. » Et pendant que j'étais à la boîte, il se passait des choses extraordinaires à la caserne. Le colonel avait expressément défendu aux soldats de lire n'importe quoi, même la Gazette officielle de Prague. Et à la cantine, ils avaient ordre de ne plus emballer le fromage et les saucisses dans du papier de journal. C'est justement ça qui a eu un effet épatant. Figurez-vous que tous les soldats se sont mis à lire tout le temps. Et notre régiment est devenu le plus instruit et le plus intelligent. On lisait tous les journaux possibles, et dans chaque compagnie, il y avait des types qui faisaient des vers et des chansons pour se payer la tête du colonel. Et chaque fois qu'il arrivait une affaire au régiment, il se trouvait un bon copain qui s'arrangeait pour la passer aux journaux sous le titre « Les martyrs de la caserne ». Mais c'est pas tout. On s'est mis aussi à écrire aux députés tchèques à Vienne pour leur demander de nous protéger. Et ils ont fait à la Chambre des députés interpellation sur interpellation. On y disait toujours que notre colonel était pire qu'une bête féroce. Alors une fois, un ministre a envoyé chez nous une commission d'enquête et un certain François Elchal de Humboka qui avait écrit à un député que le colonel l'avait giflé à l'exercice, s'en est tiré avec 2 ans de prison. La commission partie, le colonel a fait aligner le régiment entier et a dit que le soldat était le soldat, qu'il fallait faire son devoir sans houspéter et que celui qui n'était pas content commettait par cela même un attentat contre la discipline. Ah, vous vous étiez imaginé, tant de canailles que vous êtes avec la commission, il y aurait du bon, qu'il a dit. Mais voilà, vous avez la peau. Et maintenant, défilez, chaque compagnie va répéter ce que j'ai dit. Alors, les compagnies défilèrent devant le colonel, et arrivés à l'endroit où il se tenait sur son cheval, chacune d'elles criait à vous casser les oreilles. Nous nous sommes imaginés, tant de canailles que nous sommes, qu'avec la commission il y aurait du bon, mais voilà, nous avons la peau. Le colonel n'a fait que se tordre jusqu'au passage de la 11e compagnie. Elle avance en bon ordre, frappe du pied, mais arrivée devant le colonel, rien, silence, pas un mot. Le colonel est devenu rouge comme une écrevisse et l'a fait tout recommencer. La même histoire, personne ne souffle mot et tous les gars de la 11e, qui n'avaient pas froid aux yeux, reluquent affrontément le colonel. « Repos !» qui dit alors, et il fait les 100 pas à travers la cour, se tape avec sa cravache sur les jambières, crache dans tous les sens et tout d'un coup il s'arrête et crie « Abdritten !» Après, il est remonté sur son cheval et le voilà parti au galop par la grande porte. On attendait avec impatience ce qui allait se passer. On a attendu un jour, 2 jours, 1 semaine, et toujours pas de nouvelles. On n'a plus jamais revu le colonel à la caserne. Tout le monde en était content, même les sous-offs et les officiers. Puis il a été remplacé par un autre colonel, et on racontait qu'on l'avait mis dans une maison de santé, parce qu'il avait écrit à Sa Majesté que la 11e compagnie s'était révoltée. L'heure de la visite de l'après-midi approchait. Le médecin militaire Gunstein, suivi d'un sous-officier du service sanitaire qui prenait des notes, allait d'un lit à l'autre. « Bakuna, présent. Clistère et aspirine, pas connu. Présent. Lavage de l'estomac et quinine. Kovarik, présent. Clistère et aspirine. Kotatko, présent. Lavage de l'estomac et quinine. » Machinalement, impitoyable et expéditive, la visite continuait. Schweik, présent. Le docteur Gunstein regarda le nouveau venu. Qu'est-ce que vous avez? Je vous déclare avec obéissance que j'ai des rhumatismes. Au cours de sa carrière de praticien, le docteur Gunstein avait contracté l'habitude de parler avec une fine ironie qui faisait plus d'effet que des vociférations. « Des rhumatismes, oh, je comprends, » dit-il à Schweik, « c'est une maladie très grave. Mais c'est vraiment un hasard d'attraper des rhumatismes juste à une époque où il y a une guerre pareille et où l'on doit faire son service militaire. Oh, je suis sûr que cela doit bien vous contrarier. » Je vous déclare avec obéissance, monsieur Lomberatz, que cela me contrarie énormément. Je m'en doutais. Allez, ce qui est bien gentil de votre part, c'est que vous avez pensé à nous, avec vos rhumatismes. En temps de paix, un pauvre infirme comme ça, gambade comme un chevreau. Mais à peine la guerre déclarée, il s'aperçoit qu'il a des rhumatismes et que ses genoux ne sont plus bons à rien. N'avez-vous pas de douleur aux genoux? Je vous déclare avec obéissance que si. Et la nuit, vous ne fermez pas l'œil, n'est-ce pas? Oh, le rhumatisme est très dangereux. C'est une maladie très, très grave et qui fait beaucoup souffrir. Heureusement, nous autres ici, nous savons ce qu'il faut. Avec la diète totale et aussi avec notre traitement, vous guérirez plus vite qu'un pistani et vous galoperez au front qu'on ne vous verra plus, tant vous ferez de poussière. Puis s'adressant au sous-officier, le médecin ajouta « Écrivez, Schweik, diète complète, lavage d'estomac 2 fois par jour, clistère 1 fois par jour, et après nous verrons. En attendant, conduisez-le à la salle de consultation, faites-lui laver l'estomac et administrez-lui un clistère aux petits oignons. Il pourra appeler tous les saints du paradis pour l'aider à chasser ses rhumatismes. » Sur ce, il prononça encore un discours plein de sagesse à l'intention de tous les simulateurs de la chambrée. « Il ne faut pas croire que vous avez devant vous un veau à qui on peut monter tous les bateaux imaginables. Avec moi, ça prend pas, tenez-vous-le pour dit. Je sais très bien que vous êtes tous des simulateurs et que vous ne pensez qu'à déserter. J'agis en conséquence. Les soldats comme vous, j'en ai vu des centaines et des centaines. Sur ces lignes, il y a eu des tas de gens dont la seule maladie était le manque d'esprit militaire. Tandis que leurs camarades font la guerre, ils s'imaginent qu'ils n'ont qu'à se pleurer, piéter dans leur lit et à bien manger à l'hôpital en attendant la fin de la guerre. Mais tous ces gaillards se sont rudement trompés, comme vous d'ailleurs. Dans 20 ans encore, vous vous réveillerez en gueulant quand vous rêverez autant que vous avez essayé de m'avoir.
Mais je vous déclare avec obéissance, monsieur Lobérard, se fit une voix éteinte dans un lit près de la fenêtre, que je suis déjà guéri. J'ai déjà vu cette nuit que mon asthme avait tout à fait disparu.
Comment vous appelez-vous ?
Kovarik, je dois passer au clistère.
Bien, mais votre clistère, vous l'aurez encore comme souvenir pour vous faire penser un peu à nous en partant, dit le docteur Wolstein. Je ne voudrais aucun prix que vous puissiez dire qu'on ne s'est pas occupé de vous. Bon, et maintenant, tous les malades dont le nom vient d'être lu suivront le sous-officier qui sait ce qu'il a à faire. L'ordre fut exécuté, chacun des malheureux suya son traitement. Si quelques-uns s'efforçaient d'attendrir l'exécuteur par des prières ou en le menaçant de se faire incorporer dans le service militaire et de lui en faire autant un jour, Schweik, lui, fit preuve d'un noble courage. « Ne te ménage pas, dit-il au soldat qui lui administrait le clistère. Rappelle-toi ton serment. Si ton père ou ton frère était à ma place, tu serais obligé de leur foutre ton clistère la même chose. Mets-toi bien dans la tête que c'est de clistère comme celui-là que dépend le salut de l'Autriche, et tu verras, nous aurons la victoire. » Le lendemain, à la visite, le docteur Gunstein demanda à Schweik comment il se plaisait à l'hôpital militaire. Schweik répondit que cette institution militaire était quelque chose d'épatant et que lui inspirait des sentiments élevés. Comme récompense, Schweik eut la même chose que la veille, avec en outre de l'aspirine et 3 cachets de quinine que l'on avait fait fondre dans l'eau en le priant de l'avaler à l'instant même. Schweik s'exécuta et but sa ciguë, peut-être avec encore plus de calme que Socrate. Le docteur Gunstein avait passé Schweik par les 5 degrés de son système de torture. Tandis qu'on l'enveloppait dans un drap humide en présence du médecin et que celui-ci demandait l'avis de Schweik, il répondit « On vous déclare avec obéissance, monsieur Lomerhans, que ça me rappelle une piscine ou des bains de mer. Et vous avez toujours un rhumatisme ? Oh, je vous déclare avec obéissance, monsieur Lomerhans, parce que je me sens aucune amélioration. » Mais Schweik n'était pas au bout de ses tourments. Vers ce moment-là, la baronne von Botzenheim, veuve d'un général d'infanterie, se donnait beaucoup de peine pour découvrir le soldat infirme, fervent patriote, dont la Bohémia avait parlé dans l'article que nous connaissons. Après une enquête à la direction de la police, on établit l'identité de Schweik, qui fut alors facile à retrouver. La baronne von Botzenheim, suivie de sa dame de compagnie et d'un laquais qui portait un gros panier de provisions, décida d'aller visiter l'hôpital militaire de Hranagny, qui abritait son protégé. La pauvre baronne ne se doutait point de ce que signifiait un traitement à l'infirmerie de la prison de la place de Prague. Son nom lui ouvrit la porte de la prison. Au bureau, on lui répondit avec une politesse extrême, et en 5 minutes, elle apprit que der brave soldat Schweik, recherché par elle, était logé au pavillon 3, lit 17. Le docteur Grunstein, qui accompagnait la baronne, n'en revenait pas de cette visite. Schweig, après sa cure quotidienne, était assis sur son lit, entouré d'un groupe de simulateurs amaigris et affamés qui n'avaient pas encore renoncé à la bataille avec le docteur Grunstein sur le champ de la diète totale. En les écoutant, on aurait cru être tombé dans une société d'experts gastronomes ou assister à une leçon de l'école supérieure d'art culinaire ou à un cours spécial destiné aux gourmets. « On peut manger même des graillons de suif », racontait l'un d'eux, qui soignait ici un catarrhe gastrique invétéré, « quand ils sont bien chauds. Pour les avoir tout à fait à point, on choisit le moment où le suif est bien fondu. On les retire, on les écrase pour qu'ils soient bien secs, on sale et on poivre, et alors ils dégotent les graillons d'oie. Oh, c'est moi qui vous le dis. » Eh là-bas, n'en dites pas trop de mal, les graillons d'oie, hein, fit l'homme au cancer de l'estomac. Il n'y a pas de graillons qui vaillent les graillons d'oie. Les graillons au lard de porc ne sont qu'une ratatouille dégueulasse à côté de ça. Bien entendu, il faut qu'ils soient grillés, à vous avoir une petite couleur d'or, à la manière juive. Et ils s'y connaissent, les juifs. Oh, ils achètent une oie bien grasse, et ils lui enlèvent la peau, et ils la font griller au feu dans son jus. Ensemble, avec le Saint-Doux. Alors, pour les graillons de porc, vous fit observer le voisin de Schweig, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il est entendu que je vous parle des graillons de porc faits à la maison avec un cochon qu'on a engraissé soi-même. Comme couleur, faut qu'il soit pas trop brun ni pas trop blond. Une nuance entre les deux, quoi. Faut aussi qu'il soit ni trop dur ni trop mou. Surtout, faut pas qu'il craque sous la dent. Parce qu'alors, c'est qu'ils sont brûlés. Ils doivent fondre sur la langue et il ne faut pas que le Saint-Doux vous coule du menton. Est-ce que quelqu'un de vous a déjà mangé des graillons de lard de cheval ? Fit une voix. Mais personne ne répondit, parce qu'à ce moment-là, le sous-officier du service sanitaire poussa brusquement la porte et cria « Tous au lit ! Il y a ici une archiduchesse qui vient en visite officielle. » Allez surtout tâcher de ne pas montrer vos pieds sales. » Une archiduchesse authentique n'aurait pu faire son entrée dans la chambrée avec un visage plus grave et plus sérieux que celui de la baronne von Bolzensheim. Derrière elle marchait toute une suite, finissant par le sergent de la comptabilité, qui voyait dans cette visite la main mystérieuse de l'autorité suprême, et s'attendait à être expulsé du fromage découvert par lui derrière la zone d'opération. Il se voyait déjà jeté en pâture au shrapnel ou ornant les barbelés devant une tranchée. Il était pâle, plus pâle encore que le docteur Goldstein. La petite carte de la visite de la baronne, sur laquelle ce dernier avait lu « Veuve du général d'infanterie », ne cessait de danser devant les yeux du médecin qui flairait lui aussi un danger. Danger représenté par des relations influentes, des protections, des plaintes, un départ pour le front et autres catastrophes. « Voici le cheikh, madame la baronne, » dit-il avec un calme factice, en arrêtant l'aristocratique visiteuse devant le lit du brave soldat. « C'est un garçon qui a beaucoup de patience. » S'étant installé près du lit de Schweig sur une chaise qu'on lui approcha, la baronne von Bolzensheim commença. Le soldat tchèque doit être toujours un brave soldat. Le soldat tchèque beaucoup balade, mais toujours est-il un héros, moi beaucoup plus belle autriche tchèque. Et en caressant les joues non rasées de Schweig, elle ajouta. Moi, tout lire dans les journaux, moi, aborder à manger, groguer, fumer, juger, la soleil jette toujours une brave soldat. Joanne, comment dire ? Le laquais, dont les côtelettes hirsutes rappelaient Babinski, approcha le panier volumineux, tandis que, assis sur le bord du lit de Schweig, la dame de compagnie de la baronne, une grosse personne aux yeux gonflés de larmes, retapait l'oreiller de paille sous le dos du brave soldat. Elle avait l'idée fixe que c'était là l'une des attentions qui vont au cœur des héros blessés et malades. La baronne se mit en devoir de retirer du panier les cadeaux qu'il contenait. Une douzaine de poulets rôtis, enveloppés dans du papier de soie rose et noués d'un ruban jaune et noir, deux bouteilles de liqueur comme on en fabriquait pendant la guerre, dont l'étiquette portait l'inscription « Goldstraßengland » surmontant le portrait de François-Joseph et de Guillaume II. Les deux empereurs se tenaient la main comme pour jouer un jeu bien connu des enfants tchèques. Le petit lapin est tout seul dans son trou, mon petit chou. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, que tu peux pas bouger de là ? Elle tira encore du panier trois bouteilles de vin pour les convalescents et deux boîtes de cigarettes. Elle disposa avec grâce le tout sur un lit non occupé et à côté de celui de Schweik, en y joignant un livre élégamment relié et intitulé « Quelques traits de la vie de notre souverain », œuvre du rédacteur en chef de la Gazette officielle de Prague, qui adorait pieusement le vénérable Habsbourg. La couverture se garnit successivement de paquets de chocolat, portant aussi la fameuse devise « Goldstraßengland », ainsi que l'effigie des deux empereurs. Mais ils ne se tenaient plus par la main, ils se tournaient le dos, ce qui donnait l'impression qu'ils s'étaient établis chacun à son propre compte. Parmi les objets qui furent alors étalés, il y avait aussi une brosse à dents où on pouvait lire « Wiribus unitis ». Ainsi, le soldat qui se nettoirait les dents avec cette brosse était sûr de penser à l'Autriche. Il y avait encore, comme cadeau destiné à faire le bonheur des soldats partant pour le front, un service complet de manucure. Le couvercle de la boîte représentait un homme qui se jetait sur l'ennemi, baïonnette au canon, tandis qu'un shrapnel éclatait au-dessus de sa tête. Et au bas de l'image, on lisait « Für Gott, Kaiser und Vaterland ». À côté, un paquet de fruits secs s'enorgueillissait, au lieu d'une image de circonstance, de vers en allemand, et de l'autre côté figurait cette traduction ingénieuse « Autriche, ô noble empire, ton drapeau, il faut le sortir pour qu'il flotte parmi le vent, l'Autriche en a pour longtemps. » Comme dernier cadeau, la donatrice posa sur le lit une plante de jacinthe blanche en pot. Lorsque tous les cadeaux s'étalèrent sur le lit, la baronne von Bonsheim s'attendrit tellement qu'elle ne put s'empêcher de se mettre à pleurer. Plusieurs simulateurs en bavaient. La dame de compagnie qui soutenait Schweik sur son séant pleurait aussi. Un silence s'établit que Schweik interrompit brusquement. Il joignit les mains comme pour crier et murmura « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. » « Oh, pardon, madame, c'est pas ça, je voulais dire. Dieu de miséricorde, qui êtes notre Père à tout tous, veuillez bénir tous ces beaux cadeaux dont nous allons profiter grâce à votre bonté généreuse et infinie. Amen. » Ceci dit, Schweik s'empara d'un poulet qu'il se mit à dévorer sous le regard effaré du docteur Gunstein. « Quelle appétite !» murmura la baronne en extase à l'oreille du docteur. « Il est certainement déjà guéri et pourra bientôt repartir pour le front. Oh, je suis vraiment contente que ces bagatelles lui ont fait plaisir. » Puis elle alla d'un lit à l'autre en distribuant des cigarettes et des pralines et revint vers Schweik. Elle lui passa la main sur les cheveux et sur les paroles « Be with the Gott » qui t'a la chambrée, sa suite derrière elle. Avant que le docteur Gunstein, à qui incombait l'honneur de reconduire la baronne, eût eu le temps de remonter, Schweik avait distribué les poulets qui furent engloutis par les malades avec une vitesse vertigineuse. Le médecin ne retrouva plus que des os nettoyés aussi promptement que si les poulets étaient tombés dans une fourmilière et que leurs carcasses furent restées ensuite exposées au soleil pendant des mois. les flacons de liqueur, les 3 bouteilles de vin étaient vides. De même, le chocolat et les fruits secs avaient disparu dans la profondeur des estomacs en révolte. Un des malheureux avait même bu la fiole de vernis pour les ongles, qui faisait partie du service de manucure, et avait mordu dans le tube de dentifrice. À son retour, le docteur Gunstein, qui avait retrouvé son aplomb, prononça un long et menaçant discours. Lorsque la porte de l'infirmerie s'était refermée derrière la visiteuse, ça avait été pour lui un grand soulagement. Il s'était senti débarrassé d'un grand poids. Les petits tas d'eau dépiautés le confirmèrent dans sa conviction que ses patients étaient une engeance incorrigible. « Soldat, commença-t-il, si vous étiez un peu, mais un tout petit peu raisonnable, vous n'auriez touché à rien et vous vous seriez dit qu'autrement, l'Obéras ne croirait jamais à vos blagues. Par votre conduite, vous avez prouvé une fois de plus que vous n'appréciez pas ma bonté. Aussi vais-je vous faire laver l'estomac et vous passer le clistère. Ah, comment ? Je me donne toute la peine du monde pour vous tenir à la diète totale dans l'intérêt de votre santé. Et vous vous bourrez l'estomac, ce qui démolit tous mes soins. Voulez-vous tous vous fiche un catarrhe gastrique ou un cancer de l'estomac? Non, ce n'est pas dans vos intentions, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, avant même que votre estomac ait pu essayer de digérer ce que vous lui avez fait avaler, je m'en vais vous le laver à fond et en vitesse. Vous vous en souviendrez jusqu'à la mort, et vous raconterez encore à vos enfants comment une fois vous vous êtes régalé de poulet rôti et d'autres fins morceaux, et comment vos gueules, sans se reposer du travail fait en vain, auront dû tout rendre grâce à un lavage d'estomac venu au bon moment. Maintenant, pouvez être bien dans la tête que je ne suis pas un abruti comme vous, mais tout de même un peu plus malin que vous. Vous allez de ce pas m'accompagner à la salle de consultation. Je vous annonce également que demain, je convoquerai ici ces messieurs de la commission de contrôle. Moi, je vous ai assez vu. Vous vous portez tous à merveille, ou bien vous n'auriez jamais pu abîmer votre estomac comme vous venez de le faire. J'ai dit, allez en route. » Au lavage, quand ce fut le tour de Schweik, le docteur Kunstein, s'étant souvenu brusquement de la singulière visiteuse, demanda au protégé de cette dernière « Vous connaissez, madame, la baronne von Bonsalam ?» Ben, je suis son beau-fils qu'elle avait abandonné quand j'étais tout petit et qu'elle vient de retrouver, dit Schweik avec son sang-froid coutumier. Le docteur Gunstein dit simplement « Ensuite, Schweik passera au clistère. » Ce soir-là, la tristesse régna dans le dortoir. Tout à l'heure, leurs estomacs étaient remplis de bonnes choses et de friandises. Et maintenant, il ne contenait qu'une tasse de thé et un morceau de pain. Le 21 soupira de son lit près de la fenêtre. Vous croirez, si vous voulez, camarade, mais j'aime mieux le poulet à la sauce que le poulet rôti. En couverte, cria quelqu'un. Et ils étaient tous si affaiblis à la suite du festin contrarié que personne ne bougea. Le docteur Gunstein tint parole. Le lendemain matin, on vit arriver plusieurs médecins militaires constituant la redoutable commission. Ils passaient gravement entre les lits, on n'entendait plus qu'une seule et unique phrase « Montrez-nous votre langue !» Schweik tira une langue si longue que son visage se contracta en une grimace involontaire et que ses yeux clignèrent. Je vous déclare avec obéissance, monsieur le Starbucks, que ma langue peut pas sortir plus que ça. » Une discussion très intéressante s'ensuivit entre Schweik et la commission. Schweik prétendait avoir fait cette dernière remarque de crainte que la commission ne crût qu'il dissimulât une partie de sa langue. Les avis des membres de la commission étaient partagés. La moitié croyait juger Schweik à une bleuder curl, l'autre croyait que c'était un fripon qui voulait rigoler avec la guerre. « Il faudrait que le tonnerre de Dieu s'y mette pour qu'on ne puisse pas le pincer, hurla le président de la commission. Schweig considérait toute la commission avec le calme béat d'un petit enfant. Le médecin-major principal vint tout près de Schweig et lui dit « Je voudrais bien savoir, cochon maritime, à quoi vous êtes en train de penser. Je vous déclare avec obéissance que je pense pas du tout. » « Himmeldenwärter !» cria un autre membre de la commission, dont le sabre traînait avec bruit. « Regardez-moi ça, il ne pense pas. Et pourquoi, espèce d'éléphant siamois, ne pensez-vous pas? Dites un peu pourquoi. » Je vous déclare avec obéissance que c'est parce qu'il est défendu aux soldats de penser. Quand je faisais mon service au 91e de ligne, il y a quelques années, notre capitaine nous disait toujours « Le soldat ne doit pas penser. Son supérieur pense pour lui. Quand un soldat se met à penser, c'est plus un soldat, mais une espèce de civil pouilleux. Le soldat qui pense. » « Votre gueule !» interrompit avec fureur le président de la commission. « Vous êtes connu, allez !»« Der Kerl meint, mein Fürth glauben, sehr ein wirklicher Idiot !»« Mais non, Schweig, vous n'êtes pas un idiot, au contraire, vous êtes malin, roublard, crapule, vagabond, pouilleux, comprenez-vous ?»« Je vous déclare avec obéissance que je comprends. » « Ben non, Dieu, je vous ai dit de fermer ça. N'avez-vous pas entendu ?»« Je vous déclare avec obéissance que j'ai entendu que je devais la fermer. »« Et malheureux God, fermez-la alors, quand je vous ordonne de la fermer. Cela veut dire que vous n'avez pas gueulé. »« Je vous annonce avec obéissance que je sais que je n'ai pas gueulé. » Les officiers supérieurs se regardèrent. Ensuite, ils appelèrent le sergent. Cet homme, lui dit le président de la commission, vous allez le conduire au bureau et vous y attendrez notre rapport. Ce type est d'une santé de fer, il fait le malin. Et avec ça, il gueule encore et se paie la tête de ses supérieurs par-dessus le marché. Il s'imagine que nous sommes ici pour son plaisir, que le service militaire est une farce à se tordre. Attendez, mon vieux Schweig. « La prison de la place de Prague vous apprendra que le service n'est pas une rigolade. » Schweig suivit le sergent, et en traversant la cour, il fredonnait. « L'homme disait toujours, être sous les drapeaux, c'est l'affaire de quelques jours, on n'y laisse pas sa peau. » Et tandis que l'officier de service au bureau criait à Schweig qu'on devrait fusiller des saletés comme lui, dans les chambrées du premier étage, la commission continuait à tuer les simulateurs à petit feu. Sur 70 soldats, deux seulement purent s'en tirer. L'un avait la jambe coupée par un obus, l'autre un cancer aux os. Eux seuls ne furent pas expédiés avec la formule sacramentelle « Tauglich ». Tous les autres, sans exception des trois patrinaires mourants, fut reconnu bon pour le service armé, ce qui fournit au président de la commission le prétexte d'un discours. Ce discours émaillé de jurons n'était pas fort substantiel. À en croire le président, ce n'étaient tous que des canailles et du fumier, et il n'existait pour eux qu'une seule alternative, aller au front et se battre pour Sa Majesté l'Empereur, ce qui leur permettrait de reprendre leur place dans la société humaine et leur ferait pardonner, après la guerre, le crime de s'être dit malade pour échapper aux tranchées. « Mais pour ma part, ajouta-t-il, je n'en crois rien, car je suis persuadé au contraire que c'est la corde qui vous attend tous. » Un jeune médecin militaire, âme pure et non encore corrompue, demanda de pouvoir à son tour dire quelques mots. Son discours se distinguait de celui de son supérieur, par une rhétorique empreinte d'optimisme et d'une touchante naïveté. Il parlait allemand. Il s'étendit longtemps sur la nécessité pour chacun de ceux qui quittaient l'hôpital et allaient rejoindre leur régiment au front, de devenir un soldat victorieux, un preux chevalier. Lui-même était convaincu que tous allaient exceller dans l'art de la guerre, se comporter vaillamment au front et rester honnête dans toutes les affaires personnelles et militaires. Ils seraient des combattants invincibles, dignes de la mémoire du maréchal Radetzky et du prince Eugène, qui seraient toujours prêts à abreuver de leur sang les vastes champs de bataille de la monarchie et qui seraient achevés la tâche à laquelle les voit l'histoire, et que, courageux jusqu'à la témérité, au péril de leur vie, ils iraient toujours de l'avant et, sous les glorieux drapeaux en loques de leur régiment, ils n'hésiteraient pas à charger l'ennemi pour conquérir de nouveaux lauriers et de nouvelles victoires. Dans le couloir, le médecin-major principal prit à part le jeune médecin, auteur du discours pathétique. « Mon cher collègue, je vous assure que vous avez perdu votre temps. Ces saligots-là, voyez-vous, ça donnera jamais des soldats. Un Radetzky n'en fera pas plus que votre prince Eugène. C'est une race peu ordinaire de malfaiteurs. »